vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Toujours avec Jean-Pierre Verhaeghen pour son recueil « Un jour je serai prix Nobel » chez Gallimard. Et nous accueillons la linguiste et sémiologue Marie Treps. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Vuibert un livre poliment intitulé « Enchanté de faire votre plein d'essence et autres joyeuses calembourdes ».
Oui.
Quelle est la définition exacte du calembour ?
Selon moi, c'est le calembour est le fait de gens d'esprit qui font joujou avec leur culture et qui révèlent leur finesse en feignant la bêtise.
Est-ce que ça correspond à Jean-Pierre Verhaeghen ?
Ça pourrait tout à fait. Je vois qu'il opine, mais c'est ça.
L'éloge,
pour moi, c'est ça.
L'éloge de la bêtise, c'est bien aussi.
Oui, c'est le... Alors,
la bêtise
c'est
intelligente.
Ça. Mais voilà.
Idiot, dans un texte, je dis idiot comme Dionysos.
Oui.
Comme Dionysos.
Voilà. Là. Moi, je dis que en citant un proverbe guadeloupéen, que l'imbécile est le jardin prospère du savant. Et c'est pourquoi aussi ce livre, je me suis pas arrêtée au calembour, mais non. J'y ai adjoint les pataquès. Mmh.
Quelle est la différence? Parce que ça, on va en terminer avec les définitions, mais c'est important de savoir de quoi on parle.
Alors, un pataquès, c'est une faute de liaison, selon les linguistes. Il y a différentes variantes, le cuir, le velours, selon qu'on ajoute un T ou un S qui n'existe pas.
Mais donc,
malte à propos, ou dans celui-là, il sort d'on ne sait où. Voilà.
D'accord.
Tout ça, c'est des pataquès. Mais le pataquès, j'ai essayé de donner une définition plus proche que celle que j'ai donnée du calembour. C'est le fait de gens qui ne maîtrisent pas la langue et qui sont mal à l'aise avec la multitude de références culturelles qui agrémentent la langue française. Mais ces gens-là ne sont pas pour autant dépourvus de fantaisie.
Non, bien sûr. Mais alors, sauf que là, c'est pas involontaire. Parce que le calembour, par contre, c'est volontaire.
Oui, voilà.
Le calembour, c'est un dérapage.
Tout à fait volontaire.
Contrôlé.
Si vous voulez, mais dans les deux cas, on n'échappe pas au sens. Dans le cas du calembour, on le pervertit. Et dans l'autre cas, on le restitue. Parce que, et ces deux-là, alors ce qui m'a intéressé aussi, et c'est pourquoi je les ai réunis, se passent sur les mêmes territoires de la langue. Des territoires connus des uns et des autres. Par exemple, les politesses stéréotypées de la conversation. Enchanté de faire votre plein d'essence, arrosoir et persil. Vous êtes aux Japonais absents, laissez-moi vos crottes de nez, par exemple. Des lieux ou des noms, de personnes ou de lieux largement connus ou célèbres. Par exemple, les galeries Farfouillette ou Tino Rosebif. Ou alors ces expressions culturelles millésimées qui sont dans la langue. Et quand on essaye de s'adresser à quelqu'un on a perdu ces références là, mais on a toujours le sens en tête.
Oui, et ce qui est très important aussi, c'est que il faut pas expliquer tout ça. Sinon,
Des pataquès, on va restituer, on va trouver pour masquer son ignorance des parades qui sont pas du tout stupides, qui sont pleines de bon sens même. Pour transporter le sens, par exemple, on n'est pas obligé de savoir qu'Hérode est un roi qui a été placé sur le trône de Jérusalem par les Romains il y a très très longtemps. Mais tout le monde sait que vieux comme Hérode veut dire épouvantablement vieux, horriblement ancien. Alors, si on veut, pour briller, parce que quand même, on a beau être manquer de références culturelles, on a quand même, je crois, le sentiment qu'il y a quelque chose de... que ça fait partie de l'esthétique de la langue, ces expressions-là. Et on a bien envie aussi de les employer. On va dire vieux comme mes robes, parce que le sens est là, très très vieux. Les femmes ont toujours l'impression de n'avoir jamais rien à se mettre. Et voilà, le tour est joué.
Il y a une dimension esthétique dans votre travail, Jean-Pierre Verhaeghen, de la façon dont vous parlez aujourd'hui la langue française, à l'écrit comme à l'oral.
Oui, à l'oral aussi. Mais je crois fort ces pataquès pour mieux exprimer, quoi, en fait, et dire davantage encore.
Oui.
C'est sûr. J'avais, dans Ridiculum Vitae, j'avais fait un éloge, justement, de toutes ces formules-là. Je disais, je vous prends vraiment 30 secondes.
Allez-y.
Je crois en effet en Dieu le calembour, fiante du Saint-Esprit, et en son Fils le contre-paix, fruit des entrailles de notre Saint-Siège paraclet. Je crois en Saint-Galais, en Saint-Galette et sans capote. Je plonge mes racines poétiques dans le plus beau des vers français. Je suis le fils de Minette et de Pasiphae. Le fils de Minette et de Pasiphalus. le fils de Minus et de Pacifalope. Pas si fallope que ça du reste. C'est mon entière trinité, voilà. Et je disais aussi que je crois en sainte forgerie et verbigération, en saint Isocolon et saint Jargon. Je crois en saint Cacanfanton. Je crois en saint Carambolage et saint Adinaton, enfin toutes les figures.
Quelle religion ?
Quelle religion ? Quelle,
hein. C'est une religion, la religion du calembour et la langue française. Alors le calembour, on va revenir et se focaliser justement plus sur cette question-là. Le calembour, il a plus vraiment bonne presse aujourd'hui. Marie Trebs.
Non, mais pourquoi? Il a jamais eu bonne presse. Ben parce que c'est un jeu de mots, c'est quand même un jeu de mots assez grossier, sans les meilleurs, mais c'est quand même ça. Et quand quelqu'un entend un pataquès, il va s'empresser de le répéter. Quant à l'assumer, c'est tout à fait une autre histoire. Il va dresser une sorte de paravent de vertu et dire, avant de lâcher un calembour, parce que j'ai très souvent trouvé l'expression, on lâche un calembour comme on lâche une balourdise, une gaillardise ou pire que ça, c'est-à-dire qu'on n'en est pas très fier. Donc on va prendre la précaution de dire, comme dit dans les pires des cas, comme dit ma femme, comme dit ma concierge, comme dit mon beau-frère. Le beau-frère est très sollicité.
Oui, c'est pratique, les familles par alliance.
C'est le beauf, et voilà. Donc c'est vrai qu'on ne l'assume pas, il y a quelque chose d'un peu honteux, mais même les plus fanatiques de calembours sont parfois honteux, donc ils prennent la précaution d'attribuer à quelqu'un d'autre.
Et puis il y en a qui dénoncent le calembour, hein. On retrouve par exemple page 10 de votre livre, le poète Jacques Delisle qui en a même fait quelques vers dans son ouvrage La Conversation.
Le calembour, enfant gâté, du mauvais goût et de l'oisiveté, qui va guettant dans nos discours baroques, de nos jargons nouveaux, les termes équivoques, en se jouant des phrases et des mots, d'un terme obscur, fait tout l'esprit des sots.
Il n'y a pas que Jacques Delisle, hein. Bon, vous citiez aussi Victor Hugo, ce qui rejoint un peu ce que lisait Jean-Pierre Verhaeghen tout à l'heure, le calembour et la fiente de l'esprit qui vole. Mm-hmm. Voltaire qui parle de la pire espèce du faux bel esprit. Qu'est-ce que vous répondez l'un et l'autre à ces beaux esprits?
De nouveaux calembours, quoi. Les multiplier encore, c'est la meilleure réponse. Vous savez, chez nous, il y avait un grand poète que j'estime beaucoup, qui s'appelle Marcel Thierry. Il est très honoré chez nous, et ben, je crois en France aussi, il est publié chez Segers. Et il a publié un recueil qui s'intitulait « Toi qui pâlis au nom de Vancouver ». Et j'avais retourné la phrase de manière très provocatrice, j'avais dit « Toi qui restes couvert quand Marcel pâlit ». Eh ben, ça a été très mal vu, effectivement, par les admirateurs de Marcel Thierry, évidemment, à commencer par Jean-Claude Pirotte. Eh bien, mais moi je crois qu'on peut répondre à ceux qui dénigrent le calembour par une profusion de calembours, les multiplier peut-être, multiplier de toute façon les distractions verbales, comme je dis, j'appelle ça comme ça, les petites distractions verbales.
Quoi. Mais parce que dans le calembour, on se moque de la grammaire, de l'orthographe, de la conjugaison, on s'affranchit des règles, et en plus, Marie Trebs, on y prend plaisir.
On y prend plaisir, mais je voudrais répondre à la question précédente. Le calembour, il a mauvaise réputation, mais c'est aussi... Et c'est une des choses que j'ai découvertes. On peut en faire un usage provocateur, voire séditieux. Depuis Rabelais, qui avait remplacé gentilshomme par Jean pille, du verbe piller, homme, jusqu'à Coluche, qui en 1980 dit Raymond Barre invente le chômage central, en passant par Beaumarchais, qui a dénoncé les tabous sexuels et sexistes. Il a fait dire à un de ses personnages... dans Jean-Bête à la foire à Arlequin, le sesque fulminin. Alors il a d'abord déformé le mot sexe, qui est difficile à prononcer, d'une manière enfantine. Ça c'est le côté, c'est toujours un enfantillage les calembours. Alors on peut continuer à jouer, à être un éternel enfant, mais en même temps on peut faire autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait avec sesque fulminin? Il a adossé, inventé un adjectif imaginaire, fulminin, qui... Vous savez, le calembour, ça masque, mais ça révèle en même temps.
Ce qui dit beaucoup de choses.
C'est le secret de Polichinelle qu'on essaye de masquer, là. Donc, on entend très bien féminin, mais en même temps, derrière fulminin, on entend la foudre, la colère. Donc, voilà, on va soit tenir un propos misogyne, soit faire d'un calembour une arme contre la misogynie. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a mauvaise réputation, parce qu'on peut en faire un usage tout à fait séditieux.
Oui, et c'est vrai que vous utilisez aussi les mots comme des armes, Jean-Pierre Verhaeghen.
Oui, je pense que c'est la réponse la meilleure qu'on puisse avoir, c'est d'en créer, d'en inventer, d'être du côté de l'invention continue, quoi, en fait.
Oui. Alors, des calembours, on en trouve, vous en citiez quelques-uns, d'ailleurs Marie Treps chez les meilleurs auteurs. Oui. Hein. Par exemple, il y a Marcel Proust, oui. Que vous citiez d'ailleurs très très régulièrement dans le livre, et d'ailleurs parfois vous l'appelez Marcel Prout.
Non, c'est pas moi, c'est Pérec qui a fait ça.
C'est Pérec.
Bon, rendez-vous à Pérec. Vous voyez, par avant de vertu, c'est pas moi, c'est l'autre.
C'est toujours ça. Petits exemples piochés au fil de vos pages.
Ils nous mettront sous la coupole de l'Allemagne. Surtout attendez toujours pour allumer une flambée que la précédente soit consommée. Faites attention à ne pas vous salir à la porte, car rapport aux serrures, je l'ai fait induire d'huile.
Et Proust, il est très intéressant parce que, d'abord, c'est un observateur. Il a passé
C'était un facétieux de l'écriture,
observer. Proust. C'est un, oui, mais c'était surtout, je crois qu'il utilise non seulement le calembour, mais le pataquès, et à très bon escient, et comme une, il y a quelque chose de choix stylistique dans ce qu'il fait. Il fait parler des personnages comme Françoise, comme le directeur de l'hôtel de Balbec, qui au fur et à mesure qu'il apprenait les langues, parlait de plus en plus mal la sienne, comme le liftier qui n'a jamais su dire ascenseur, mais ascenseur, dont des personnages populaires font des pataquès. Et pendant ce temps-là, au salon, Oriane de Guermantes ne s'abaisse pas en faisant des à peu près, de vulgaires à peu près, c'est-à-dire des calembours. Donc il avait très bien remarqué qu'il y avait pataquès et calembours, et que, c'est, comment dire, c'est permettre de, pour employer des gros mots, et des espèces de typologie sociale, quoi. C'est une manière de typer les personnages. D'un côté, on a le peuple, d'un côté, on a des gens aristocrates ou qui prétendent à l'aristocratie.
Mais alors, il y a aussi San Antonio.
Je pense que l'effet stylistique du calembour, Jean-Pierre ne va pas me contredire.
Non, j'aime beaucoup quand vous théorisez comme ça, c'est très très bien.
Alors, il y a aussi San Antonio qui est aussi un maître du genre.
Ouais.
Donc là, ça veut dire aussi que la dimension populaire du calembour est attestée. Ou est-ce que on peut aussi goûter aujourd'hui le fumet du calembour dans la bonne société, Marie Treps?
Mais je crois que certainement, mais je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Pierre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le calembour et le pataquès se font relativement rares, parce que ces vieilles expressions, pour les déformer, soit volontairement, soit involontairement, encore faut-il qu'ils fassent partie de notre paysage oral ou linguistique, ou, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, on entendait à la boucherie du coin, au café du coin, soit des dérapages, soit des atteintes volontaires au langage.
Vous êtes d'accord sur ce diagnostic? Jean-Pierre Verrigal, est-ce que vous avez une explication?
Je pense à mon propre boucher qui me demande chaque fois une côte de porc, il appelle ça une côte de sport.
Oui.
Mais il fait le coup à tout le monde.
Oui.
C'est ça. Il y a un côté répétitif.
Hein. Oui.
Ça, c'est le côté beauf où on répète toujours et on fait un succès avec cela. Hein, le gars qui entre dans un bistrot et directement, c'est cela. Mais si, je vous donne un exemple qui m'a été propre.
Oui.
De détournement. Moi, j'aime bien le mot détournement. Détourner les choses.
Oui, oui,
hein.
Oui.
Comme là, vous le montrez. Je me souviens qu'au moment des législatives de 96, je pense, oui, à Liège, il y avait une grande affiche écolo.
Oui.
Et c'était voter vert, voter écolo. Et avec un gros feutre, j'ai changé évidemment l'histoire et j'ai fait voter vert comme ceci, comme le petit verre qu'on boit, voter alcoolo. Hein, ce genre, je le rappelle, voter l'alcool.
Ils ont gagné les élections?
Eh bien, justement, le gars qui était le président du parti pour la région de Liège, eh bien, il m'a tensé, évidemment, il m'a dit, mais toi, vraiment, t'es un anarchiste, et ça coûte des thunes, enfin, de faire une affiche comme ça. Et puis, les élections sont passées, ils ont eu un résultat très convenable, il dit, qu'est-ce qu'on m'a parlé de ce détournement? Qu'est-ce que ça a eu de l'effet?
Ben voilà.
Voilà, exactement. Un cas.
Les flics m'emmerdent pas, j'ai mes papiers en bonne et due forme. Ma mère, elle disait toujours, tu feras jamais rien, toi, t'es à troisième roue du carrosse. Ben, dis donc, tout le monde peut pas être sorti de la cuisine à Jupiter, hein. Ah ben, mon frangin, il a fait toutes les études qu'on pourrait faire, hein. Il aurait même pu être notaire ou des conneries comme ça, hein. Finalement, il est ingénieur à Grenoble. Je sais pas dans quoi. Mais il me parle plus, il est fier, comme s'il avait un bar tabac, pareil. Oh la là-bas chez lui. C'est que de la glace et de la dorure. Tu croirais la caserne d'Ali Baba là-dedans. Alors bref, il a eu un accident de cheval. C'est en sautant un obstacle, il a sauté plus haut que le cheval, il est retombé à cheval sur l'obstacle. Alors il s'est écrasé les choses de la vie, quoi. Il y a un nom, c'est... Et gesticule. C'est bien, hein, jusqu'à là. Hein. Ça, il a collé des coliques frénétiques. Hein. C'est drôlement emmerdé. Ils ont fait venir un savant de Marseille. Et le mec, il a dit, bah, c'est rien, faut vous enlever les amygdales.
Extrait du Clochard analphabète. Hein, vous avez reconnu évidemment Coluche, qui est aussi cité dans votre livre, Marie Trèves.
Ah, alors, sûr.
C'est vrai que rien ne se périme plus vite que l'humour. Est-ce que le calembour est intemporel ?
Oui, je crois qu'il est intemporel. Ben là, il y a quelque dans ce qu'on vient d'entendre du magnifique Coluche. Fait plaisir d'entendre sa voix aussi. Ben, il y a beaucoup de termes médicaux. Et c'est vrai que ceux-là, on va les patasser caisser, si j'ose dire, ou les calembourder tout le temps, parce qu'ils sont impossibles à prononcer.
Mais les mauvaises langues disent que quelqu'un comme Pierre Dac, par exemple, il fait plus rire personne aujourd'hui.
C'est possible, je sais pas, même San Antonio, mais bon, de toute façon, ça réjouit que les intempérants, c'est San Antonio qui le disait, hein. C'est-à-dire que il y a des gens qui aiment ça et qui aimeront toujours ça, et puis il y a des gens qui peuvent pas s'en passer. San Antonio lui-même disait que c'était une maladie bénigne de la cervelle. Et il a même fini par avouer « ma matière grise me grise ». Il y a des gens comme les gens qui font des contrepétries, ils ne peuvent pas s'en passer.
Est-ce que la relève est assurée?
Vous savez, j'en ai quand même entendu une très récente il y a quelques jours, qui est drôle, c'est une métaphore très alambiquée quand même, qui va redorer le blouson de la France. Voilà, ça date d'il y a une semaine, je l'ai entendu. Quand on entend une chose à un endroit, on l'entend partout. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que les gens pensent à blason, peut-être, ou peut-être pas?
Là, je pense quand même, avec redoré, probablement. Jean-Pierre Verrigan, la question de la relève. Est-ce que les jeunes parlent autant et jouent autant, de la même façon, en tout cas, avec la langue?
Bah, je pense qu'il y a un problème que nous avons déjà mis en évidence, c'est ce parler tronqué d'aujourd'hui. C'est surtout ça le côté...
Le langage SMS,
le court-circuité. En fait, comme si tous les mots commençaient par K. Je dis le causé coupé, le coupé coupé. En fait, des choses comme cela. Et c'est peut-être là moins du côté du calembour. Ah, si on pouvait écrire calembour avec un K, on pourrait peut-être...
Mais alors, je vais vous apprendre quelque chose. C'est que au XVIIIe siècle, le mot calembour est né au XVIIIe. Hein, on le trouve dans une lettre de Diderot à Sophie Volant. Et il y avait un certain marquis de Bièvre qui aimait beaucoup les calembours, comme vous, et qui a écrit une lettre à Madame la Comtesse Tassion. Donc il faisait un usage séditieux du calembour, mais ce sont les idées nouvelles qu'il chahutait là. Et d'ailleurs les philosophes, Voltaire et autres, n'aimaient pas du tout. Mais pourtant, D'Alembert s'est adressé au marquis de Bièvre pour écrire l'article calembour dans l'encyclopédie. Et il s'écrivait à l'époque avec un K.
Ah oui.
Voilà. Et d'ailleurs, on ne connaît pas l'origine du mot, et il s'écrivait à l'époque avec un K. Donc, ça serait un retour aux sources, en quelque sorte.
Un retour aux sources, oui.
Check up. me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Je sens comme un vide. Remets-moi Johnny Kid. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas en blesser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi.
Gabi sur RFI dans Vous m'en direz des nouvelles. Vous avez évidemment reconnu Alain Bachung et les paroles de Boris Bergman, un grand poète, Bachung très souvent, un grand joueur de mots aussi, et Bergman évidemment.
Surtout Boris surtout, Bergman, surtout, bien
surtout,
sûr.
Surtout lui.
Son parolier, oui.
Voilà, oui. Il faut s'accrocher quand même parfois, hein, faut comprendre.
Ah non, bah pour moi ça coule comme de l'eau de source, et j'adore cette chanson-là.
Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de façons différentes de comprendre beaucoup de chansons de Bachung.
Oui, mais alors c'est pas des calembours, ce sont des allusions plutôt. C'est encore autre chose l'allusion, quelque chose de subtil. Le travail, disons, pour comprendre est plus le chemin est plus dur que quand il s'agit d'un simple calembour. On peut très bien passer à côté.
C'est peut-être ça aussi la poésie, Jean-Pierre Verriguet.
C'est le côté de la forgerie et aussi des verbigérations. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, j'ai entendu récemment des gens qui, vous savez, nos banquiers nous assassinent pour l'instant, hein, et les gens sont tous d'accord là-dessus, et ils les appellent des banksters.
Des banksters. Ah oui, c'est très joli,
c'est pas mal, hein, banksters.
Bah oui, ça c'est une espèce de mot valise aussi.
Mais voilà, les mots valises aussi, hein, ouais. C'est important.
Ah. Ouais. Oui, est-ce que sûr. Vous avez déjà eu envie d'écrire des chansons, Jean-Pierre Verriguet?
Eh bien non, pourtant j'ai des amis dans la chanson.
Ouais.
Je vois constamment Julos Bocarne. Qui habite à deux pas de chez moi,
oui.
Et on est très très amis, on discute d'un tas de choses, mais je n'ai jamais écrit pour lui. Je pense que, je sais pas, peut-être bien qu'un jour, oui, quand j'aurai 80 berges. Quoi.
Alors ce livre, il est à la fois drôle et en même temps très sérieux quand même, parce que bon, c'est un livre scientifique, vous avez écrit
oui.
Plusieurs fois aux éditions du CNRS, c'est pas le cas aujourd'hui, mais bon, on sourit et on rit quand même extrêmement souvent, et vous nous expliquez ce que vous appelez le B.A.B.A. du calembour d'âge.
Ouais.
Donc ça veut dire que les calembours, vous les analysez, les décortiquez un peu avec les mots savants de la linguiste que vous êtes.
Pas trop de mots savants, non, je crois pas. Vraiment pas.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Non, je pense pas.
Oui.
Au
est-ce
contraire.
Que c'est
j'essaie de raconter les choses,
oui,
moi,
est-ce
toujours.
Est-ce que c'est réellement... en quoi est-ce que c'est intéressant de les analyser d'une façon scientifique?
Ben, c'est à vous de me dire si vous avez appris quelque chose.
Ah oui, moi j'ai appris des choses.
C'est
par exemple,
ce que me disent les gens.
Par exemple, j'ai appris que tomber dans les pommes, en fait,
les pommes.
Ben,
les
ça n'avait rien à voir avec les pommes, mais c'est les paumes. P-A-U-M-E-S.
Ah ben bah non, c'est pas ce que je dis, parce qu'il y a les pamoisons. Voilà. C'est plutôt
oui, c'est ça.
Vous savez, je ne serais pas l'ayatollah non plus, parce que moi j'aime bien, quelquefois il y a plusieurs histoires pour expliquer la même chose. On va vous dire, ça c'est la vérité, ça non. Mais moi je m'en fiche de ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ça ait fait fonctionner l'imaginaire et qu'on ait produit des explications autres.
Oui, copain
c'est
comme vrai. Cochon, par exemple, là vous avez aussi l'explication.
Oui, bien sûr que c'est un mot qui a disparu. Au départ, c'était copain comme sausson. Et on entend le latin socius derrière, si on veut l'entendre,
le compagnon.
Si on connaît quelqu'un avec qui on a des liens. Donc on peut être, effectivement, si on a des liens, on peut être copain. C'est presque redondant. Mais le mot a disparu de la langue, ça arrive, ça. Donc l'expression aurait été aussi perdue corps et bien si on n'avait pas joué avec le mot et remplacé par autre chose. Ce que vous me dites, vous me posez le mot cochon, parce qu'on a l'impression que les cochons, bon, ils vivent ensemble, ils sont rarement tout seuls, ils n'ont pas l'air de s'embêter. Et il y a une autre expression. Ça aussi dans la langue. Si vous voulez, c'est des enquêtes un petit peu comme des enquêtes policières que je fais. On a vu apparaître l'expression cochon dans le sens de quelqu'un qui profite de la vie. Comment ?
Cochon qui se dédie.
Cochon aussi. Qui sont dédiés. Oui, et puis aussi le cochon libidineux, quoi, le côté libidineux. Et tout ça, ça cristallise dans la nouvelle expression. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire aussi, parce qu'on parle toujours de la langue française, qu'il faut respecter, bien sûr, je suis la première à le dire. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la langue française, elle écrit aussi son histoire à travers des péripéties loufoques. Et ça me paraît pas un propos hautement intellectuel, mais plutôt quelque chose de très simple, au contraire.
Et en même temps, vous avez écrit vous-même une petite nouvelle dont les extraits sont disséminés dans l'ouvrage. Vous l'avez intitulé « Le roman de Madame Rose ».
Ah,
un extrait tout de suite, on va l'écouter. On est page 104 du livre.
Pas fermer l'œil. Le gamin a passé une drôle de nuit. De ses craintes de tout, le pauvre, à croire qu'il avait attrapé une génuflexion de poitrine. D'ici à ce que l'ornithorynque eût trouvé des bassines de coque dans la caserne pulmonaire. N'allez pas croire, les vieilles maladies ne sont pas tombées en décrépitude. La tuberculose reviendrait, pas étonnant avec l'augmentation de la recrudescence. Dans le temps, ce n'était pas rien. On vous expédiait au crématorium et là, on vous faisait un pneumothorax. Vous parlez d'une villégiature. Encore toute patraque, je vais prendre mon travail. Madame m'attend pour le grand ménage. Ce sera fait quasimodo, autant vous le dire. Faire la poussière dans les appartements de la reine-mère, c'est pas une sinécure. Des biberons partout, 5 postiches en vieux chine, une rubambelle de tabacière, un tas de japonaiseries et d'africonneries héréditées de son ancêtre voyageur, l'absorbante marine. Faites bien attention, ma petite Rose, j'y tiens comme à la perlette de mes yeux. Là-dessus, elle part se réfugier au grand salon avec son sac Hermès sous le bras comme la reine d'Angleterre. La conscience règne.
Extrait du roman de Madame Rose qui figure donc dans votre livre Marie Treps. Vous avez de la concurrence, Jean-Pierre Verrier.
Oui, tant mieux. Je suis ravi.
Flatté, moi, je suis.
Cette concurrence-là m'intéresse.
Merci beaucoup à tous les deux. Enchanté de faire votre plein d'essence et joyeuse calembour de Marie Treps chez Vuibert. Je rappelle aussi le livre de Jean-Pierre Verrier, Un jour, je serai prix Nobel chez Gallimard. Je vous dis à tous les deux merci d'être venus.
Merci à vous.
Arrosoir et persil. Salade et loukoum à nos auditeurs arabes. Arrivée d'air chaud pour les Italiens. Dans une poignée de secondes, le flash. À très vite, je vous en dirai des nouvelles.